Bienvenue sur Foxeo, le podcast des rédactrices ambitieuses qui veulent créer et développer leur propre business, sans passer par les plateformes, ni se brader à 5 centimes du mot. Ayant démarré mon business de zéro en 2018, je suis convaincue qu'on peut bien vivre de la rédaction web en trouvant ses clients en direct. Moi c'est Muriel et ma mission c'est de vous aider en tant que rédactrice freelance à vous développer et à vous vendre avec confiance. C'est pour ça que j'ai créé Foxmaster, mon programme de mentoring pour vous aider à poser des fondations solides et bâtir une entreprise au service de votre vie. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je parlerai de stratégie, forcément de développement commercial et de prospection, de marketing de contenu et de mindset. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine, le king du pricing de valeur. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Donc, merci d'être sur mon podcast. Tu es mon deuxième invité en distanciel et le troisième du podcast. Donc, c'est un plaisir de te recevoir.
Hello, merci Barbara. Écoute, merci beaucoup. Ça me fait aussi super plaisir d'être là.
Je te propose de te laisser te présenter. Comme ça, on explique à nos auditrices ce que tu fais.
Ok, moi, il n'y a pas de souci. Donc, hello, moi, c'est Antoine Gérard. Et j'ai pour habitude d'aimer me présenter par commencer par dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et je me suis donné pour mission d'aider les gens à s'entourer de personnes qui estiment, respectent et payent cette valeur. Et ça passe notamment par deux choses. De une, faire en sorte que les gens soient payés au prix juste. Donc, j'aide les gens principalement sur les sujets du pricing, comment se sentir légitime, c'est quoi un prix juste, comment tu fais pour que les gens soient prêts à payer ce prix-là. Et aussi, justement, le deuxième point, comment faire en sorte que les gens te choisissent pour toi et pas pour tes prix. Donc, tout ce qui est branding, qu'est-ce qui va composer les choses que les gens vont vraiment vouloir travailler avec toi, malgré que il y a peut-être moins cher ailleurs, mais parce qu'ils ont envie de travailler avec toi. Et voilà, ça fait faire bientôt 2 ans que je suis lancé. Et je suis content parce que si je devais placer un chiffre que j'adore sortir parce que j'en suis trop fier, c'est qu'en moyenne, les personnes à qui j'ai travaillé ont augmenté leur prix de 150%. Donc, c'est le truc que j'aime bien flex avec
parce que
ça représente
c'est énorme. Ce que
j'ai fait. Et du coup, voilà.
Super. Alors moi, je t'avais découvert, je crois, parce que je suis Florine, vu que j'avais été une de ses élèves en copywriting. Je crois que c'est comme ça, par ricochet, que je suis tombée sur ton compte et ton podcast que j'ai écouté et j'ai adoré. Et à chaque fois que tu parlais, je me disais mais c'est complètement ça, mais oui. Et je me suis dit, punaise, on a plein de points communs. Et c'est comme ça aussi par hasard, en fait, j'avais envie de te contacter et j'ai vu ta story où tu disais où tu étais ouvert à faire des interviews et c'est comme ça que je t'ai contacté. Et en fait, je trouvais que le point commun, c'était de se dire, moi, j'accompagne les créatrices de contenu à bien développer leur activité par une approche commerciale et le sujet du prix est très important. Et à chaque fois qu'il y a un prospect qui arrive ou un client, on se pose toujours la question du prix. Et j'aimais ton approche parce que je les encourage aussi à facturer au forfait et à la valeur et à se détacher juste du seuil de rentabilité ou de ce que fait la concurrence. Donc, je me suis dit, c'est génial. Et toi, tu es focus là-dessus. Donc, tu vas pouvoir leur apporter des pépites de conseils.
Merci. Justement, c'est ce qui m'a, quand j'ai découvert ton podcast à toi, les premiers épisodes, comme je t'ai dit, ça aurait pu être des titres qui auraient pu apparaître sur mon podcast. Et donc, c'était super, on match complètement par rapport à ça. Et puis, si je peux aider les personnes, comme j'ai dit, si je peux aider les gens à faire en sorte d'être payés au prix juste, à la juste valeur de leur travail, je suis la personne la plus heureuse du monde.
Oui, carrément. Alors, explique-moi, c'est quoi la valeur ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on l'entend, mais ça reste un peu nébuleux. On ne sait pas trop ce qu'on y met derrière. Ça veut dire quoi, facturer à sa juste valeur ?
Ok. Alors, pour moi, déjà, il y a une notion importante à différencier entre valeur réelle et valeur perçue. La valeur réelle, c'est en général qu'on va parler, quand on va parler de valeur, c'est plutôt de celle-là qu'on va parler en général. Pour moi, la définition, ce serait l'ensemble de l'impact positif que va avoir ce que tu fais auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est-à-dire à quel point ça va, comment les aider, les faire se sentir mieux, changer leur vie, etc. Alors, c'est des grands mots, mais ça peut être dans une moindre mesure en fonction de ce que tu vends, bien sûr. Mais c'est vraiment l'ensemble de ce que ça va changer concrètement pour la personne du fait que tu vends ton service ou ton produit. Et ce qui est hyper important là-dedans, c'est la notion que c'est spécifique à une personne ou un groupe de personnes. Parce que justement, la valeur, ce qu'on a tendance à oublier souvent, c'est que la valeur va changer en fonction des gens. Même pour un même produit, pour un même service, cette valeur va changer. Je te donne mon propre exemple. Quand je parle de pricing, je parle de se sentir légitime, etc. C'est des choses qui vont beaucoup intéresser les personnes qui, genre, en général, celles qui sont en solo, qui doivent pricer eux-mêmes leur prix, que genre vraiment, c'est, ils ont cette notion de vouloir avoir le prix juste, etc. Pour des startups, pour des multinationales, pour voilà, c'est pas quelque chose qui va vraiment beaucoup les intéresser, ça aura pas beaucoup de valeur, alors même que c'est le même produit et le même service. Simplement, en fait, ça aura plus de valeur pour certaines personnes que pour d'autres. Et voilà, donc ça, c'est pour la valeur réelle, c'est vraiment l'ensemble de l'impact que tu vas avoir auprès des personnes. Et la valeur perçue, c'est à quel point les gens voient cette valeur-là. C'est-à-dire que pareil, tu peux très bien avoir une très bonne, apporter beaucoup de valeur à des personnes, mais qu'elles ne le voient pas. Et du coup, la valeur perçue, du coup, ça va plus passer pas par ce que tu fais concrètement, mais comment tu le mets en avant, comment ta manière de te vendre, ton branding, ton image de marque, etc., toutes ces choses-là. Et en gros, pour pricer, on va plus avoir tendance à se baser sur la valeur perçue, mais on va avoir tendance à vouloir se rapprocher le plus possible de notre valeur réelle quand on va avoir pricé au prix juste. Genre, voilà.
Oui, je comprends bien. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas juste, tu leur dis pas juste, allez, venez, on double vos prix et puis c'est bon, ça fonctionne. C'est ce qu'on pourrait tendance à avoir. Je sais que les personnes pourraient se dire « Oui, mais moi, je n'ose pas augmenter mes prix ou je ne vois pas la valeur que j'apporte. Je fais une stratégie de communication ou je crée un site. Quelle est la valeur? Je passe X temps, je produis quelque chose. Mais c'est quoi la valeur? Je ne sens pas que je transcende la vie de mon prospect ou que je lui apporte une grande transformation. » Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme...
Déjà, comme conseil par rapport à ça. Par rapport à vraiment pricer au prix juste, vraiment, le truc, c'est que mon but, c'est pas forcément, oui, faites tous du high ticket. Et puis, si jamais les gens, personne ne remet en question tes prix, ça veut dire qu'il faut absolument augmenter tes prix? Non. mon but, c'est d'être payé au prix juste. Si ça passe par doubler tes prix, ça passera par doubler tes prix. Si ça passe par garder tes prix, ça passera par garder tes prix. Moi, mon but, vraiment, c'est d'aider les gens à avoir des prix qui sentent qu'ils sont véritablement justes, parce que justement, la valeur qui, ils ont fait en sorte de prendre en compte la valeur de ce qu'ils font pour définir leur prix. Et du coup, pour la question de comment on fait pour mesurer cette valeur-là, j'ai dit que c'était l'ensemble de l'impact auprès des personnes. En fait, c'est simple, tu vas essayer de lister, en général, l'une des choses que je pense que normalement on fait toutes et tous quand on veut vendre quelque chose, c'est on va lister des bénéfices sur nos offres, nos services, nos produits, etc. Ne serait-ce que pour essayer de la vendre, en fait, c'est ça qu'on va mettre en avant pour vendre tous les bénéfices. Et en général, on va partir sur ces bénéfices, les lister, et on va essayer de les chiffrer le plus possible. Des fois, c'est très compliqué de chiffrer des choses, mais souvent on peut retomber sur quelque chose qui peut se représenter de manière chiffrée. L'exemple le plus courant que je peux donner, c'est par exemple une entreprise qui a besoin de faire son identité visuelle. Tu vas dire, oui, mais quelle valeur ça a pour cette entreprise-là? Imaginons, c'est une multinationale. Si tu vises des multinationales, etc., leur identité visuelle, c'est la première chose que vont voir tous leurs clients d'eux. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça va avoir un impact sur leur image à l'échelle mondiale, ce qui fait que, cette valeur-là va être proportionnelle à c'est pratiquement proportionnel au nombre de produits qu'ils vendent dans le monde, en fait. C'est-à-dire que pratiquement chaque vente, si c'est une marque qui est plus chère que les autres, va être potentiellement due à son image de marque et donc à ce que tu fais. On peut avoir cette rhétorique pour pratiquement tout. Par exemple, si tu fais économiser du temps aux gens, parce que tu es assistante, parce que tu es... ce que tu fais, c'est principalement économiser du temps aux gens. Alors, je conseille pas de venir sur des tarifs... on en a parlé, les tarifs horaires, c'est pas ce truc, mais pratiquement, systématiquement, on peut essayer de recalculer combien vaut le temps d'une personne. Moi, je fais pas de tarif horaire, mais si tu prends mes heures de coaching, si tu prends combien coûte un coaching avec moi et que tu viens ramener ça à un tarif horaire, alors je fais pas de tarif horaire, mais si tu viens ramener juste factuellement combien ça fait, par exemple, moi, j'ai délégué la partie, monter mon podcast, le montage de mon podcast, ça me fait économiser 2 heures par semaine. Ça me fait un coaching en plus par mois, personnellement. Ouais, et donc, c'est potentiellement 2000 euros par mois. Et là, je parle juste du temps, de dire que pour cette valeur-là. Et ça, en fait, il faut que tu prennes tous tes bénéfices, voir est-ce que tu peux pas venir et le convertir. Combien d'argent ça va faire économiser à la personne? Voilà, ce genre de choses.
J'ai un exemple aussi très concret que j'avais eu avec un client qui était pharmacien, et je mettais en place ses réseaux sociaux. Et donc, bien sûr, il ne connaissait absolument rien. Donc, ça lui paraissait cher. Mais je l'aurais dit 200 ou 400 ou 500, de toute façon, c'était cher parce qu'il n'avait jamais dépensé là-dedans. Donc, il a fallu lui expliquer. Et justement, je lui disais, mais lui, en tant que pharmacien, combien il facture une journée, en fait? Combien sa présence dans son métier, combien il rapporte? Et combien, enfin, il est peut-être je crois qu'il est à 1200, 1500 euros la journée. S'il se met à faire les réseaux sociaux, il va passer le double ou le triple de mon temps parce que c'est pas son métier. Donc, ça va lui coûter énormément parce que par rapport à lui, la valeur qu'il a. Et en plus, le résultat sera complètement approximatif parce que vraiment, pour le coup, il n'était pas du tout doué pour faire ni un visuel, ni écrire quoi que ce soit. Et donc, après, tu dis, bah, toi, ton service qui vaut, je sais pas, moi, 300, 400 euros par mois, je prends un exemple, tu prends 400 euros par mois, alors que lui, toi, tu vas le faire en une demi-journée. Lui, il va mettre une journée et demie, il va le faire en trépignant des pieds et pas correctement. Alors que s'il s'occupait de ses clients et qu'il faisait son métier, ben, il rentrerait plutôt 1200 euros à la journée. Donc, juste de mettre en perspective cette différence de prix, il se rendait bien compte qu'il avait tout intérêt à déléguer ça. Et on peut prendre la même chose, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour des petites tâches. Par exemple, je sais pas, enfin, faire ton ménage, c'est quelque chose. Pendant que tu fais le ménage, tu travailles pas sur ton entreprise. Et des fois, on pourrait se dire, c'est pas juste vouloir la vie de grand luxe, mais de se dire, une femme de ménage, elle me coûterait tant. Et pendant qu'elle s'occupe de faire mon ménage, moi, je récupère tant d'heures par semaine. Et ces heures-là, par contre, moi, je les facture 3 fois, 4 fois ou 5 fois plus. Et donc là, tu te dis, ça peut être intéressant effectivement de prendre quelqu'un et de déléguer quelque chose autour de notre business, quoi, ou de notre vie pour avoir une meilleure qualité de vie, quoi.
Totalement. En gros, c'est ça, c'est tu listes qu'est-ce que ça va apporter aux gens et tu essaies d'en ressortir de ce qu'ils vont économiser, en fait.
Oui, carrément. Puis après, dans le digital, quand il y a des prestataires qui sont dans le digital, on a quand même beaucoup d'indicateurs pour traquer aussi ce qu'on peut apporter aux clients, quoi. Au début, quand on se lance, je comprends que ça peut être un peu difficile de se dire « je sais pas trop combien j'apporte », mais on a quand même pas mal d'éléments. Peut-être pour un branding, c'est un peu plus délicat, mais pour en tout cas du marketing digital, on a énormément d'indicateurs pour s'appuyer dessus et voir ce qu'on apporte réellement à un client, quoi.
En fait, ce qui va aider le plus pour réussir à mesurer sa valeur perçue, c'est vraiment très bien connaître sa cible, en fait. J'en parlais juste avant, que la valeur va changer en fonction des gens. Si tu ne connais pas les personnes à qui tu t'adresses, tu ne connaîtras pas quelle valeur ça va leur apporter. Donc, tu n'arriveras pas à vraiment définir des prix justes, en fait. Et c'est ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes qui arrivent à pricer très tôt. Parce qu'ils se mettent très vite, très tôt à vraiment connaître leur client idéal. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Oui. Mais leur cible, leur avatar client, enfin bref, appelle ça comme tu veux. Ils définissent très vite. Et ce qui fait que quand on vient sur le sujet du pricing, c'est pas automatique que ça va se passer mieux, mais en général, ça va se passer mieux que quelqu'un qui le fait pas. Et ce qui fait que des personnes qui ne font pas l'exercice, qui vont avoir des clients sans forcément se poser de questions sur qui est-ce qui s'adresse, etc., ils peuvent passer des années, en fait, plusieurs années à avoir leur activité et toujours pas se sentir légitime et ne pas savoir pricer au prix juste, simplement parce que déjà parce qu'ils savent pas trop d'où vient la valeur de ce qu'ils font, mais même en sachant où est-ce que ça, oui, mais je m'adresse à qui, quelle valeur ça a, et faut vraiment passer par ce savoir à qui je t'adresse pour savoir combien vaut ce que tu fais.
Et justement, du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, tu t'adresses à une certaine typologie de personnes, donc tes clients idéaux, ou est-ce que du coup, tu es large? Ça pose la question de se dire, si je connais bien ma cible, est-ce que je dois cibler quand même un minimum ou est-ce que je peux me permettre de rester large, niche ou pas niche?
Alors, pour moi, bien connaître sa cible, ça passe pas forcément par se nicher en mode « je vais travailler qu'avec les entrepreneurs dans le bien-être qui font ça, etc. » Ça peut, effectivement, ça peut et ça aide beaucoup en fait de faire ça parce que y a plein de choses qui s'enclenchent toutes seules par derrière. Ça peut être une façon de faire qui peut très facilement aider. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux très bien connaître ton client idéal, mais par contre, parce qu'en fait, les questions les plus importantes, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait concrètement, c'est pas quel âge elle a. En définitive, c'est pas les questions les plus importantes. Les questions les plus importantes, c'est quelles problématiques elle rencontre dans son quotidien, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour elle, etc. Et tu peux répondre à ces questions-là sans passer par la niche au sens vraiment catégorie socio-professionnelle. Mais c'est vrai qu'en avoir une, ça aide, ça répond de manière automatique à certaines questions. Ça va t'aider à aller plus facilement, mais ce n'est pas obligatoire.
Ou pour démarrer, si quelqu'un qui serait trop généraliste et qui part Tu sais, un coup sur, si tu prends l'exemple d'une graphiste qui fait une identité visuelle et qui peut aller dans des secteurs complètement différents, d'une PME industrielle à une entreprise, un type start-up IT, bah là, quand même, il y a deux mondes différents. Et là, on se dit, effectivement, il y a quelques problématiques qui vont peut-être revenir, mais les univers sont différents, la manière de parler est différente. À un moment donné, il faut un minimum choisir ou commencer par une cible et ensuite, quitte à en faire d'autres, quoi.
En vrai, ça, t'as complètement raison. En fait, au moins savoir le type de personne à qui tu t'adresses, dans le sens où, pas forcément genre dans quel secteur, etc., mais au moins savoir, est-ce que en face de toi, t'as un indépendant? Est-ce qu'en face de toi, t'as une petite structure avec une petite équipe? Est-ce qu'en face de toi, t'as une multinationale? Est-ce qu'en face de toi, t'as des particuliers? Parce que ça, en fait, ça va faire une grande différence. Notamment, je reste sur l'exemple des graphistes. Tu voudras faire un logo pour quelqu'un. Si tu fais un logo pour, par exemple, un indépendant, la personne ne va pas percevoir le même prix que si c'était pour une start-up qui a besoin de se différencier dans un truc hyper concurrentiel, etc. Et c'est pas non plus la même chose que si tu t'adresses à des personnes qui veulent lancer une petite chaîne YouTube et qui veulent un logo pour leur chaîne YouTube. Et tu vas pas pouvoir du tout pricer au même prix. Et parce que du coup, la perception sera pas du tout la même. Les enjeux seront pas du tout les mêmes. Donc, même si t'es pas obligé de te nicher, etc., mais au moins savoir en face de toi, t'as qui en termes de d'univers, en fait. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un en solo? Est-ce que c'est, enfin, bref, ce genre de choses.
Oui, complètement. Histoire d'avoir l'ensemble qui soit cohérent et adapté. Puis ça facilite le travail aussi de se développer, de trouver ses clients, que si à chaque fois on change tout le temps, quoi. Si on change tout le temps, on se fatigue plus vite, en tout cas.
Ouais.
Comment on fait pour savoir si notre prix est le bon?
Ah. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que en général ça laisse les gens un peu dubitatifs, dans le sens où ils sont surpris de la simplicité de la réponse. Le truc, c'est que pour moi, c'est quoi un prix juste? Pour moi, un prix juste, c'est un prix que tu as véritablement choisi. Parce que, quand tu as des prix qui te sont imposés par d'autres personnes, pour moi, tu ne l'as pas vraiment choisi. Et donc, il n'est pas vraiment justifié parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, il t'a juste été imposé. Donc, ça va être compliqué de te sentir légitime avec ça. Donc, par exemple, quand tu fais simplement t'aligner sur ta concurrence, ça ne veut pas dire que tu dois faire comme si la concurrence n'existait pas. Mais, la seule chose que tu as fait, c'est OK, les prix des autres, c'est ça, je vais me baliser dessus. Ben, tu peux si tu veux, mais tu vas avoir du mal à te sentir légitime avec tes prix parce que, quand tu vas vouloir te justifier auprès de toi-même, en fait, pourquoi est-ce que ton prix, c'est ça, tu n'auras pas, il n'y aura pas cette notion de valeur, en fait, parce que tu n'auras pas fait l'exercice de te demander quelle valeur ça apporte aux gens, tu seras juste basé sur les prix des autres. Pareil, quand ton prix t'est imposé parce que tu ne peux pas faire moins, parce que sinon tu ne peux pas. Tes ressources financières ne te permettent pas de faire moins, mais en même temps tu peux pas faire plus parce que tu te sens pas légitime. Au final, c'est pas toi qui as véritablement choisi ton prix, c'est simplement ton syndrome d'imposteur et tes finances personnelles qui ont pris une décision sans toi. Ils ont fait une réunion là tout seul sans que tu sois dans le processus. Et donc, pour moi, tu as vraiment ton prix sera juste à partir du moment où tu l'auras choisi vraiment en conscience. Et du coup, comment on fait pour savoir si on a vraiment choisi son prix, en l'occurrence? Pour répondre à cette question, en fait, il faut casser un mythe, le mythe d'une certaine valeur universelle du prix, une valeur universelle de chaque produit et service. C'est-à-dire une notion selon laquelle il faut absolument que ton produit ou ton service soit un certain prix, genre il y a vraiment un prix exact à la virgule près pour lequel ton prix sera OK. Il n'y a pas en dessous, il n'y a pas au-dessus, etc. Ça n'existe pas. En fait, ton prix, en définitive, tu sais que tu l'as vraiment choisi quand il pourrait être plus bas parce que tu pourrais te permettre financièrement de faire plus bas, mais juste tu as décidé de le mettre à ce prix-là parce que tu considères que c'est ce qui est le plus aligné avec la valeur de ce que tu veux apporter. Et inversement, il pourrait être plus haut. Tu pourrais continuer à vendre si c'était plus haut, mais simplement, tu ne veux pas aller plus haut parce que tu considères, encore une fois, que ce qui est le plus aligné avec ce que tu veux faire, avec tes objectifs, ta manière de penser, c'est ce prix-là, etc. Et donc, en définitive, si je devais résumer tout ce que je viens de dire, c'est que tu sais que ton prix est le bon quand ça pourrait être un autre prix. Et en général, les gens bloquent.
Ouais,
c'est
clair.
C'est que ton prix est le bon quand il pourrait être un autre prix.
Ça, c'est fort, ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il y a aussi alors, je pense que tu as raison, c'est hyper important de se sentir bien dans ses baskets et aligné. Enfin, si au moment où tu dois annoncer le prix, tu te décomposes et t'es pas bien, enfin, c'est que ça coince, quoi. Il suffit pas juste de dire, tiens, je vais me faire accompagner, elle a dit que je pourrais facturer tant, ou il ou elle a dit que je pouvais doubler ou faire beaucoup plus. Bon, allez, je fais plus. Mais si t'as pas fait ce chemin, effectivement, dans ta tête, ou ce chemin intérieur d'être convaincu de ton prix, d'être convaincu. Si t'es pas convaincu, tu peux pas convaincre quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper important de de le valider toi-même, la validation. Parce que souvent, on a tendance à rechercher une validation extérieure. On va regarder, on va parler à, tiens, bah, elle est entrepreneur, elle aussi, tu factures combien à ça? Ou alors, on va demander, ah, et toi, ah, t'es passé par une community manager, elle facture combien? Ou la rédactrice, elle est à combien? Où on se retrouve? Moi, j'avais beaucoup de rédactrices et quand j'ai démarré ou je recherchais de la rédaction web, j'ai vu des groupes Facebook et tout le monde se parle de prix, mais tout le monde se tirait vers le bas. Et ils étaient contents de tout le monde se tirer vers le bas. Ah bah c'est X centimes du mot, bah c'est normal. Et puis au-delà, tu peux pas, à part si tu as X années d'expérience, sinon c'est pas possible. Et puis déjà, il y avait cette facturation au mot que je ne comprenais pas. Et puis je me suis dit, mais en fait, oui, d'accord. Donc vous êtes tous en train de vous dire il faut rester bas et tout le monde est content de se dire on reste bas. Et si tu factures au-dessus, clairement, on te dit que c'est pas possible, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter de tout le temps regarder ce qui fait le marché, quoi, parce que sinon, ça, des fois, on se tire une balle dans le pied d'emblée, quoi.
Mais déjà, quand c'est toi qui m'as appris que, vu que je connaissais pas du tout cet univers-là, c'est toi qui m'as appris qu'on pouvait facturer au mot. Je disais, quoi ?
Oui.
Oui. Mais ça m'a abasourdi parce que j'étais facturé au mot. Bon, soit.
Je trouve que l'image est horrible. En fait, de se dire, je balance des mots sur mon clavier, ça ne vaut que 5 centimes, 6 centimes, 8 centimes. Chaque mot vaut quelques centimes. C'est là, la valeur, tu te coupes de ta valeur, en fait.
Mais exactement, parce que ça met comme si tout le monde écrivait de la même manière, tout le monde écrit pour les mêmes personnes, alors que c'est faux, en fait. Et encore une fois, la concurrence, le marché, c'est quoi le prix des autres, etc. Moi, je considère qu'au bout d'un moment, surtout quand on est freelance, ce qu'on vend, c'est une partie de nous-mêmes. C'est nos compétences, ce qu'on a vécu, c'est notre expérience, donc on vend une partie de nous-mêmes. Et au bout d'un moment, je suis désolé, on n'est pas des tomates sur un marché et vouloir regarder combien coûtent les autres pour voir si t'es pas trop dans ton marché à la rigueur, pourquoi pas, mais à un moment il y a des limites. Personnellement, par exemple, en tant que consultant coach, j'ai jamais regardé combien coûtaient les autres personnes. Je me suis pas posé une seule fois je sais même pas, en fait, tu me dis est-ce que je suis plus cher, je n'ai aucune idée de si je suis plus cher ou pas que les autres. Je me suis juste basé, ok, j'ai envie d'aider qui, ça vaut combien pour ces personnes là c'est quoi la valeur perçue derrière, ok, bah pour moi c'est censé valoir ça, go for it. Voilà.
Mais ça peut être une bonne idée, ça, de se dire, allez, on arrête de regarder ce qu'il y a autour et on se pose et on fait l'exercice, on prend une feuille et on met tout ce qu'il y a dedans et on fait une estimation. Et là, en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait ou que les personnes aussi que j'accompagnais ont pu le faire, on se rend compte qu'on serait beaucoup plus haut que si on avait regardé ce que faisait le marché. Et après, bon, bah, on ajuste en fonction de notre confiance, notre syndrome de l'imposteur, effectivement, qui va guider un peu où est-ce qu'on met le curseur. Et est-ce que tu aurais des conseils pour aider justement les personnes à déterminer la valeur? Quels seraient quels paramètres on peut raccrocher pour dire, ah ben, ça a beaucoup de valeur, ça a pas beaucoup de valeur? Je sais pas si ma question est claire. Par exemple, souvent, on se raccroche à l'expérience. Ah, si j'ai beaucoup d'expérience, ou si j'ai un diplôme, ou si j'ai une certification, alors je vaux. Sinon, je vaux rien. Mais si t'es autodidacte, alors tu vaux rien. Surtout en France.
Alors, c'est un sujet qui a déjà fait polémique quand on parle, mais surtout auprès des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Mais en gros, je l'ai déjà dit plus tôt, pour mesurer la valeur de ce que tu fais, quel impact aura ce que tu fais auprès des gens? C'est tout. Tout le reste, en gros, l'expérience, les diplômes, etc., ils sont là pour attester que, enfin, pour te, comment dire, a priori, et encore, ça dépend des situations, mais ils sont là surtout pour dire, OK, tu es capable d'apporter cette valeur-là, etc. OK? Mais ils sont, en fait, c'est des systèmes de mesure. C'est pas la mesure en elle-même. C'est pas
les arguments, quoi. Ça peut être
un
argument.
Que tu vas pouvoir utiliser pour de la preuve sociale. Et encore, ça dépend, parce que c'est le genre de preuve sociale qui n'a pas marché avec tout le monde. Mais comment dire, par exemple, un diplôme, a priori, ça veut dire que tu as ce socle de connaissances-là dans ce domaine. Donc, a priori, ça atteste, prouve que les compétences que tu dis avoir, tu les as. Mais par exemple, dans la plupart des cas, pour les freelances, en tout cas, dans l'expérience que j'ai auprès des personnes et tout, c'est rare qu'on demande de justifier notre expérience passée. et du coup, en fait, en général, c'est pas très, très pertinent. C'est pas parce que tu as plus d'expérience que ce que tu fais vaut plus. Dans 5 ans, si tu t'adresses aux mêmes personnes et que ton service est certes, toi, tu vas plus vite parce que tu as eu des process entre temps, etc. Mais si tu t'adresses aux mêmes personnes et que ton service est le même, tu auras beau avoir 5 ans d'expérience, ça vaudra le même prix. parce que tu apportes la même valeur aux personnes. Ce qui va gagner, tu vas peut-être aller plus vite, etc. Mais du coup, j'ai horreur du truc en mode, oui, je fais payer autant parce que je fais payer mes années d'expérience. Non, tu fais payer autant parce que tes années d'expérience t'ont donné des compétences qui, elles, te permettent d'apporter plus de valeur aux gens, etc. En gros, comment dire, c'est que ce soit l'expérience ou les diplômes, c'est un moyen. C'est pas ce qui va faire la valeur en soi.
Oui, je suis bien d'accord. Et il y a aussi peut-être regarder ce qu'on apporte. Il y a ce qu'on apporte à court terme, mais ce qu'on apporte à long terme, en fait. Ce que tu fais, tu le délivres à l'instant T et ton client a tout de suite un résultat. Il repart avec un branding, il repart avec un site ou des articles ou que sais-je. Mais après, au long terme, qu'est-ce que ça lui apporte? Et c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui est rédaction web ou création de site ou le SEO, où il y a un effet, c'est-à-dire au moment où tu livres tes articles, ton site, il est référencé à tel niveau ou tel ranking. Et après, au fur et à mesure du temps, toi, tu ne fais plus rien. Même si tu arrêtes de travailler pour le client, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ton article, il continue de travailler pour le client, tes articles continuent et le site change de positionnement et jusqu'à arriver en première position. Et donc, si tu factures que l'instant T, tu te coupes de la valeur que tu apportes à long terme. Ouais. Quoi.
En gros, en fait, pour pratiquement tout, j'ai envie de dire tout, mais je mets des pincettes. Mais pour pratiquement tout, les plus gros bénéfices, donc ceux sur quoi tu te bases pour la valeur, sont à long terme. Il y a très peu de trucs où c'est automatique là, maintenant, cette valeur-là et tout, à part peut-être pour les achats émotionnels de certains produits où tu es content sur le moment et après, peut-être que tu te sens un peu truc. Mais sinon, pour quand on est dans la prestation de service, on est freelance, etc., pratiquement toujours les bénéfices sont à long terme. Pour comment tu viens de donner l'exemple de la rédaction, ou peut-être que toi, tu as fait ça à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le site de la personne plus tard. Pour une identité visuelle, pour les graphismes, l'image professionnelle, elle sera immédiate. En revanche, l'image de marque qui va se développer, ce sera du long terme. Ce n'est pas un truc qui se met en place d'un claquement de doigts. Tous les bénéfices les plus gros seront pratiquement toujours à long terme. Et donc, quand tu fais ta liste de bénéfices, bien penser à dire, OK, c'est quoi les bénéfices immédiats? C'est quoi les bénéfices à moyen terme, genre dans 6 mois, à quoi peut s'attendre la personne? Et c'est quoi les bénéfices plus long terme, genre dans un an, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que ça va changer pour la personne concrètement? Et pas les oublier, parce que les plus gros, en général, c'est ceux qui vont être les plus éloignés dans le temps.
Et alors, du coup, je me demandais comment tu es arrivé sur cette spécialisation du sujet du pricing de valeur. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire j'ai envie d'avoir ce positionnement, enfin d'aller sur ce sujet qui me tient à cœur?
Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en général, les gens me disent qu'ils s'attendent à ce que vraiment j'ai fait une étude de marché pour dire « Oh, il n'y a personne sur cette niche-là, je vais me mettre là. » Pas du tout. Je me suis lancé dans cette activité de coach et consultant il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, je n'étais pas du tout spécialisé dans le pricing. J'étais juste coach business au sens large. Et je sortais un peu nulle part. J'avais juste voulu aider des personnes. De base, j'avais juste fait un compte Instagram où je donnais des conseils aux gens comme ça parce que j'avais envie. Et un jour, on m'a dit « Ouais, tu devrais aller plus loin que simplement des posts Instagram. » On m'a dit « Ouais, essaye le coaching. » Moi, j'ai dit « Mais j'ai jamais fait ça. » J'ai proposé à 2 personnes qui savaient très bien, je sortais nulle part, j'avais jamais fait ça avant. Je dis « Est-ce que vous voulez tester avec moi ?» Et ces 2 personnes sont passées de quasiment pas de clients à des listes d'attente sur plusieurs mois en ayant l'une triplé ses prix, l'autre doublé. Je me suis dit « Oh, c'est pas mal !» Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Et au fur et à mesure, en fait, même si j'étais pas sur le pricing dès le départ, il y a une conviction qui est la même en fait depuis le départ, c'est que celle par quoi je me présente en général, c'est le fait que je suis convaincu que les gens ont de la valeur et surtout qu'on mérite que cette valeur nous soit rendue. Et ça, c'était là depuis le départ. Et OK, à un moment, je me suis posé, je me dis, OK, qu'est-ce qui aiderait le plus les gens à faire en sorte qu'ils soient payés à leur juste valeur? Ça passe par le prix. En fait, c'est le point le plus important.
Le plus important.
Quand tu veux être truc par rapport à ça. Et OK, j'ai réfléchi à la question, j'ai consommé du contenu et tout, mais après, j'ai développé ma propre manière de penser sur qu'est-ce qui selon moi devrait avoir, enfin qu'est-ce qui a selon moi de la valeur, etc. Et du coup, ce qui a fait que au bout de 1 an, du coup, ça va peut-être faire 1 an maintenant que j'ai pris cette spécialisation-là et que du coup, jusqu'à récemment, enfin il y a 6 mois à peu près où j'ai osé me dire expert en pricing et plus récemment
assumer
du pricing, assumer.
Oui, c'est bien. Donc ça part d'une conviction qui était là, quoi. C'est juste. T'as expérimenté, jusqu'à toucher du doigt que c'était effectivement ça qui t'animait et qui te correspondait, quoi. Exactement. Et du coup, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients, sachant que, effectivement, comme tu le disais, tu sortais de nulle part, je sais pas, t'avais peut-être pas 10 000 ou 15 000 abonnés sur Instagram ou quoi. Et aussi parce que tu es très jeune.
Alors, effectivement, alors de base, j'étais sur Instagram, j'avais genre 200 abonnés, j'avais 18 ans. J'étais là en mode, je suis personne, je sors de nulle part, je suis pas en mode, ouais, j'ai lancé des gros business avant. Non, j'étais personne, je donnais juste des conseils comme ça, des petits trucs sur Instagram et tout. C'est juste qu'à l'époque, je passais beaucoup, enfin, d'ailleurs, toujours un peu maintenant, je passais beaucoup de temps sur Instagram, mais pas à consommer du contenu, à échanger avec les gens. J'adorais, discuter de tout, de rien, c'était pas pour but de, enfin là, juste je discutais avec les gens, j'avais discuté avec plein de personnes et tout. Et ce qui fait que quand on m'a dit ouais, peut-être que tu devrais tester ça, j'avais fait une story pour dire ah, au fait, on m'a dit ouais, go tester ça, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées? Et puis boum, les personnes qui m'avaient suivi, il y avait 200 personnes qui me suivaient, il y en a deux qui m'ont dit go, on essaye de faire un truc. Et voilà, sachant personnellement que j'avais rien fait avant, elles ont dit ok, on crash test avec toi. Et au final, elles sont très contentes de ça. Et moi aussi, ça a été une super expérience qui m'a poussé quand même. Mais vraiment, c'était simplement, j'ai partagé du contenu sur Instagram, j'ai échangé beaucoup en message privé avec plein de gens. Et puis au moment où j'avais quelque chose à proposer, il y avait des gens déjà là pour dire ok, on go.
Et est-ce que tu as toujours été du coup indépendant, ou est-ce que tu as travaillé, tu as testé le monde de l'entreprise classique et traditionnelle, ou est-ce que tu as tout de suite fait le grand bain du freelancing?
Alors, je n'ai jamais été salarié.
C'est génial.
Je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours, depuis le lycée, en fait, le système salarial me dit, je ne sais pas si j'ai envie d'être. Je ne remets pas en cause tout le système en soi, mais simplement moi me dire, j'ai pas une personnalité à dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Tu vois. Et du coup, et en fait, à l'époque, quand j'étais au lycée, je me disais, je me lancerai je serai salarié pendant quelques années, le temps de pouvoir lancer mon truc et tout. Et au final, après, j'ai fait une première année d'études et j'ai eu une mauvaise expérience là-bas avec des profs. Et je me dis, oui, mais là, c'était des profs. C'était juste un aperçu, un amuse-bouche de ce qui allait m'attendre pendant plusieurs années avec peut-être un patron. Et du coup, je me suis dit, non, on va passer directement à la case, indépendant, je lance ma propre entreprise. Et voilà, mais non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble à un contrat salarié.
C'est génial. Et tu n'as pas eu ces questions de te dire, non, d'abord, ou je suis trop jeune, ou il faut d'abord que j'expérimente dans le monde de l'entreprise. Enfin, justement, le syndrome de l'imposteur qui peut arriver au début. Alors, comme ça, et en plus, super jeune.
Pour le coup, je parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, du sentiment d'illégitimité, mais j'en suis pas trop concernée. Dans le sens où, en fait, dès le départ, j'avais ce truc en mode, je sais très bien qu'est-ce que je suis, mais je sais aussi qu'est-ce que je suis pas, je sais qu'est-ce que j'ai pas expérimenté et tout. Et en fait, le truc, c'est que dès le départ, j'ai été clair. J'ai pas caché le fait que je sortais de nulle part. J'ai pas caché le fait que, je m'improvise, j'ai jamais fait de coaching et tout. J'ai dit, je vais être coach business. J'ai pas caché, en fait. J'ai pas fait genre que j'avais un business à 10K derrière. J'ai juste été, très clair sur le truc. Mais je dis, en fait, j'étais dans la position de dire, moi, j'ai un petit truc à apporter. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir ce petit truc-là que j'ai à apporter? Et, il y a des personnes qui étaient OK. Moi, de mon côté, j'étais très à l'aise avec ça parce que je mentais pas, en fait. J'étais très juste, je disais factuellement qu'est-ce que j'avais apporté, et c'est ça qui convenait aux gens, du coup.
Alors, je terminerai par une autre question à te poser. C'est justement pour les personnes qui sont intéressées d'aller plus loin sur le sujet du pricing de valeur, comment on fait pour travailler avec toi?
Alors, justement, sur ce sujet précis-là, le pricing, j'ai une formation qui s'appelle le pricing de valeur, qui est justement le fruit de ce que j'ai pu, de tout ce que j'ai dit avant, mes convictions, de ce que j'avais envie d'apporter aux gens et d'aider à faire en sorte que les gens se sentent légitimes avec leur prix et qu'ils aient des prix justes. Donc, en gros, c'est une formation qui couvre tout, depuis les bases, les fondations, de savoir comment tu fais pour structurer, comment tu fais pour voir les bénéfices de ton offre, à qui tu t'adresses, c'est quoi la mission de ton entreprise, etc. Jusqu'à sur quoi tu te bases pour définir tes prix, qu'est-ce que tu fais concrètement pour mesurer la valeur de ton travail, comment tu fais pour mesurer quelle valeur voient les gens dans ce que tu fais, et on finit sur comment faire en sorte que les gens voient cette valeur là. Donc ça passe comment faire sa page de vente, comment faire des appels de vente qui soient chill, tranquille, qui soient agréables autant pour toi que pour les personnes qui t'en appellent. Enfin bref, on couvre tout depuis les fondations jusqu'au terrain pour vraiment faire en sorte que t'aies des prix justes, que tu te sentes légitime avec ça. Et voilà, donc c'est très concret, vraiment il n'y a pas de blabla inutile, c'est très mise en application concrète. Pour autant, c'est quelque chose où vraiment je partage partage ma vision des choses. En fait, c'est surtout même si il y a beaucoup de concret, mon but, c'est surtout d'état d'esprit par rapport à la valeur de ce que tu apportes, que tu mérites, que de faire en sorte que les gens te rendent cette valeur-là. Et voilà.
Super, merci. Bah, je mettrai, tu me donneras les liens, je mettrai tout ça en description. Merci, merci pour tous tes conseils et ton partage d'expérience qui est très enrichissant.
Merci, bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était super.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles avec un mot doux sur votre plateforme préférée. Un grand merci pour votre soutien.